Et je voudrais vous parler justement ce matin bien d'un sujet de cette liberté. Hein, lorsque dans la vie, eh bien, nous traversons souvent des moments difficiles. Nous avons tous essayé, et ce pendant des années et des années, mais au bout d'un moment, on capitule et nous pensons qu'il faudra faire avec hein, cette situation d'une manière permanente, d'une manière définitive. Je suis souvent étonné par le nombre de personnes eh bien, qui vivent captifs au travers eh bien, de leurs difficultés, au travers de leur manière de capituler eh bien, face aux difficultés de la vie. Pour les personnes qui ont des difficultés au niveau des finances, eh bien, ils pensent que c'est terminé, qu'ils n'y voleront pas, qu'il faudra se résigner, hein, faire avec. Ceux qui ont des difficultés dans leur vie de couple, eh bien, au bout d'un certain temps, ils se disent, eh bien, c'est comme ça, c'est ma vie, et ils n'ont plus cette espérance que les choses s'arrangent, que ça aille de mieux en mieux, mais au contraire, ils vivent avec en se disant, eh bien, c'est ma vie, c'est comme ça, hein, je vis dans cette situation. Et très souvent, quand nous regardons les personnes, eh bien, nous voyons les gens vivre et s'habituer à la maladie, vivre avec, hein, et s'installer, eh bien, finalement, dans une situation où au-dedans de nous-mêmes, on a l'impression que les choses ne changeront jamais, que c'est comme ça. Voilà, c'est ma vie. Hein, quelle est ta vie, hein, et souvent, on voit eh bien, de la captivité. Les finances, l'amour, le travail, il faut faire avec, hein, faut vivre avec. C'est comme ça. Je dois m'habituer à vivre et je dois rentrer dans ce schéma. Et les gens me disent, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux ? Je suis un garçon eh bien, ou une fille négative, c'est mon caractère, hein, je suis comme ça. Et ils sont convaincus que finalement, ils ne changeront jamais, que rien ne va changer dans leur vie. Et je vous dirais ce matin, et c'est ça qui m'interpelle, eh bien, c'est que le premier endroit où nous perdons la bataille, eh bien, c'est dans notre propre pensée. Ça se passe là. Hein, comment nous voyons notre propre vie, comment nous l'analysons, comment eh bien, nous vivons les difficultés de la vie, et est-ce que nous avons, nous aussi, eh bien, tendance à regarder cela comme permanent. Je passe hein, par des situations difficiles et il faut que je fasse avec. Hein, et si vous pensez que vous avez atteint vos limites, alors vous allez les atteindre. Et si vous pensez que vous ne serez jamais bien, eh bien, alors vous serez jamais bien. Vous devez changer de façon de penser. Vous avez besoin d'analyser tout ce qui vous empêche d'évoluer. Et il y a des limitations, hein, des dépendances, il y a des problèmes de santé, des limitations dans notre manière de voir la vie, des dépendances face à la drogue, face au sexe, face à notre... Et bien souvent, eh bien, on se sent captif et on a l'impression que les choses ne vont pas bouger, que c'est comme ça, je vis avec. Et on y prend un certain plaisir, d'ailleurs, de vivre dans cette situation, parce qu'on s'installe dans cette situation. S'il y a de la résignation, parce que ce n'est pas notre rêve, parce que ce n'est pas notre idéal, mais il y a eh bien, un confort. On veut la paix. On n'a pas envie de rentrer dans les disputes. On n'a pas envie de rentrer dans les confrontations. On n'a pas envie de prendre des risques. On n'a pas envie de se jeter à l'eau. Hein, alors, on reste eh bien, tranquillement dans ces situations. Et il arrive un moment eh bien, où on accepte hein, et cette situation comme une norme. C'est ma vie. Hein, j'accepte. J'ai des difficultés dans mon couple. Mais je l'accepte, je vis avec, je me résigne à vivre comme ça. Il y a beaucoup de gens qui vivent en couple et qui se résignent. Hein, c'est, ça paraît choquant, ce mot résignation, lorsque, eh bien, on parle d'amour, lorsqu'on parle de vie nouvelle, lorsqu'on parle, eh bien, de destinée. On a l'impression qu'il y a une notion de résignation. Je me résigne dans mon travail parce que c'est ma vie, parce que je ne sais pas faire. Je ne sais rien faire d'autre que ça, parce qu'on me paye à faire quelque chose que je sais faire, mais en dehors de cela, je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais faire. Je suis un bon à rien. Et on rentre dans une résignation, dans une sorte de dépendance. Et je dirais que tout ça, ce sont des bastions dans nos esprits qui nous empêchent d'évoluer, de rentrer dans notre destinée. Et si vous voulez simplement sortir de cet état d'esprit, vous devez penser que les choses vont s'améliorer. Hein, s'améliorer, les choses vont s'améliorer. Hein, les choses ne sont pas figées, les choses, eh bien, vont bouger, les lignes vont aller de l'avant et vous verrez les choses, eh bien, avec d'une autre manière. Le premier endroit où nous perdons la bataille est dans notre pensée, dans nos pensées. Vous avez peut-être des douleurs dans une partie de votre corps, hein, depuis des années et des années. Et puis on vous dit, vous allez voir les médecins, et puis on vous dit, eh bien, c'est comme ça, il faudra vivre avec. Hein, vous êtes là, vous vous résignez à vivre avec cela. Mais moi, je voudrais ce matin vous dire une chose. Ce n'est pas le rapport médical, je voudrais vous lire le rapport de Dieu. Hein, parce que le rapport de Dieu, il est totalement différent. Et le rapport de Dieu, il vous dit, cette maladie, eh bien, n'est pas pour rester dans ton corps tout le temps. Hein, cette maladie, elle est dans un territoire étranger parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et béni soit le Seigneur. Ta carrière professionnelle, eh bien, ne te sens pas coincé, ne te sens pas figé parce que c'est pour un temps. Mais je vais t'ouvrir de nouvelles opportunités et tu verras, eh bien, que tu même si tu n'as pas fait d'études, même si tu as des... Tu penses que tu as des limites, mais moi, je vais t'ouvrir de nouvelles opportunités et tu vas pouvoir évoluer, tu vas pouvoir apprendre, tu vas pouvoir, eh bien, grandir dans ta vie professionnelle. Et c'est ça le rapport de Dieu. Le rapport de Dieu, il n'est pas limitatif. Nous limitons. Nous pensons, eh bien, que c'est comme ça. Je vais vivre avec, je me résigne, je sais pas faire, je sais rien faire. Je suis à la retraite, je sais plus rien faire. Cette limitation, je vis ce stress. Et les gens vivent un stress en permanence, eh bien, ce stress de la limitation, de la résignation. Hein. Mais j'aimerais ce matin, eh bien, que vous puissiez ne pas vous installer d'une manière définitive dans ces situations. J'aimerais que vous déclariez la parole du Dieu vivant et vrai. J'aimerais que, à nouveau, vous repreniez espoir et que vous ne dites pas « tout est fini, c'est comme ça ». Non, il y a toujours un espoir. Eh bien, même si tu rencontres des difficultés dans ton couple, eh bien, tout peut s'arranger, tout peut évoluer, tout peut, eh bien, prendre une nouvelle direction. Il ne tient qu'à toi d'y croire. Ne baisse pas les bras. Hein, ne baisse pas les bras. Mes plus grandes victoires sont toujours devant moi. Et je dirais que c'est vrai que c'est pas facile la vie, hein, parce que on passe par des moments difficiles, parce que on passe par des épreuves, parce que mais les meilleurs moments sont toujours devant nous. Hein. Ta vie ne s'est pas arrêtée à un moment donné. Le meilleur est devant toi. Hein, même si tu penses que le malin, le diable va te dire ah ben tu as vu. De quelle nationalité tu es, tu n'as pas les papiers français ou tu n'as pas reçu d'éducation, tu n'as pas été à l'école longtemps, eh bien, sache que le meilleur est toujours devant toi. Dieu a toujours des opportunités, Dieu a foi en toi et Dieu peut t'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Et c'est ça la parole du Seigneur. La parole de Dieu, eh bien, elle nous montre que nous ne sommes pas esclaves, que toutes ces chaînes, que toutes ces dépendances, que tous ces emprisonnements, eh bien, sont dans nos têtes et que nous devons nous libérer, briser ces chaînes, sortir, eh bien, des pensées de l'esclavage pour devenir des hommes et des femmes libres, libres en Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais vous parler de l'Ancien Testament et j'ai été surpris par le livre de Deutéronome au chapitre 15 parce qu'il nous parle de ces choses-là. Et il nous dit au chapitre 15, verset 1, tous les 7 ans, eh bien, tu effectueras une remise de dette. Hein ? Voici comment elle s'effectuera. Quand on aura proclamé la remise de dette en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain renoncera à son droit. Il n'imposera pas de contrainte à son prochain et compatriote pour le paiement de sa dette. Tu pourras imposer des contraintes à l'étranger, à ceux qui ne sont pas juifs, mais tu renonceras à ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton compatriote, chez un frère ou une sœur, eh bien, dans le Seigneur. Et il y avait cette loi, eh bien, que Dieu a donnée au peuple d'Israël qui dit que chaque septième année, eh bien, il devait libérer les esclaves hébreux. Si vous étiez un hébreu, et que vous deviez de l'argent, eh bien, et que vous ne pouviez pas le rembourser, votre créancier pouvait vous prendre en tant qu'esclave, vous faire travailler à plein temps, jusqu'à ce que vous lui ayez payé cette dette. Mais chaque septième année, si vous étiez juif, l'élu de Dieu, eh bien, vous avez un avantage particulier. Il vous libérait de cette dette, il vous libérait de l'esclavage. Si vous lui deviez encore de l'argent, ce n'était pas grave. Hein, c'était la loi de l'Éternel. Vous voyez pourquoi Dieu a donné cette loi ? Parce qu'il sait que nous traversons des difficultés. Il sait que quelquefois nous sommes esclaves par rapport à ces difficultés. Mais il nous donne, ce n'est pas d'une manière permanente, ce n'est pas définitif, ce n'est pas toute votre vie que vous serez esclave. Parce que toutes les 7 ans, il déclare une année de libération. Une année où il vous libère de toutes les dettes. Une année où il vous libère de toute la captivité pour vous dire « tu es libre ». Et vous êtes les enfants du Seigneur, vous êtes le peuple d'Israël, vous êtes eh bien, ceux qui avaient reçu Jésus-Christ en héritage. Et j'aime cette parole parce que, au verset 12, « Et si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 ans, mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas les mains vides, tu lui feras des cadeaux tirés de ton petit bétail, de ton aire de battage, de ton pressoir, de ce que tu auras grâce à la bénédiction de l'Éternel, ton Dieu. Hein, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. C'est un commandement de Dieu. Hein, c'est un commandement de Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que ça nous donne eh bien, de regarder la vie avec un autre regard et de voir que malgré que les passages difficiles, malgré les situations, eh bien, Dieu nous libère. Dieu nous libère, Dieu nous affranchit la 7e année et il ne nous laisse pas eh bien, partir les mains vides. Bien au contraire, il nous donne eh bien, tout ce qui est nécessaire. Et malgré la souffrance, malgré eh bien, les douleurs, malgré les difficultés, eh bien, il y a une 7e année. Et cette 7e année, c'est l'année de la libération. C'est l'année où tu es libre. En un jour, eh bien, tu es libre de toutes tes dettes. Tu as franchi. Jésus a payé ta dette à la croix du calvaire. Hein? Jésus eh bien, t'a libéré d'une manière définitive de tout ce qui pesait sur tes épaules, de toute cette chape, que ça soit la maladie, que ça soit eh bien, les difficultés, que ça soit les pressions que tu peux vivre dans ta vie, eh bien, Jésus te libère. C'est toute dépendance, il y a une libération. Tu es peut-être aujourd'hui eh bien, dépendant de la cigarette, peut-être que tu vas te cacher pour fumer dans les toilettes, peut-être que tu es là parce que tu es chrétien et que tu as peur du regard des autres. Mais sache une chose, eh bien, c'est que nous avons un Dieu de délivrance. Cette situation, cet esclavage que tu as, eh bien, cette addiction que tu as face à la drogue, face à toute chose, eh bien, sache que c'est d'une manière temporaire et c'est pas du définitif. Hein, et que bien souvent, tu la places dans ton esprit comme une norme définitive. Tu crois que c'est comme ça. hein, et que voilà, tu vas te résigner, tu vas t'habituer. Il n'y a rien qui est comme ça. Tout peut changer. Et bien au contraire, eh bien, Dieu est le Dieu du changement et de la transformation. Nous, nous sommes bien souvent eh bien, attachés à notre zone de confort. Mais Dieu nous dit, tu n'as rien à craindre. Sors de cette zone de confort et tu verras ma main sur toi et tu verras ma transformation dans ta vie. Et je crois que nous sommes dans cette septième année, hein, dans cette septième année qui croise nos chemins, nos vies, et cette septième année de la délivrance, de la liberté, où Dieu eh bien, nous donne de sortir de nos limites, où Dieu nous donne de sortir de tout ce qui nous emprisonnait, que ce soit l'alcool, que ce soit la toxicomanie, que ce soit les dettes, que ce soit la santé, que ce soit nos luttes que nous avons eh bien, d'une manière permanente. Il y a une septième année dans ta vie et nous sommes à la croisée de ces changements. Je bénis le Seigneur parce que c'est une loi, c'est un commandement que Dieu a donné eh bien, de délivrer son peuple cette septième année. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, tu rentres dans cette année. Cette année eh bien, où tu es libre, où tu n'as pas de limitation, où tu n'es pas retenu eh bien, par des luttes constantes dans ton esprit. Pourquoi ? Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que c'est un avantage, c'est une faveur. Et j'aime le mot faveur imméritée. Nous sommes, eh bien, nous avons la faveur de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous accorde de nous libérer eh bien, de tout ce qui nous tient esclaves, de tout ce qui nous empêche eh bien, de rentrer dans notre destinée. Les chaînes tombent et Dieu veut eh bien, aujourd'hui que cette septième année soit devant toi et que tu rentres dans la destinée que Dieu a pour toi. Ne te résigne pas. Tu n'as pas abandonné, tu n'as pas baissé les bras, tu n'as pas à regarder à terre, mais regarde vers le Seigneur et tu verras eh bien, cette septième année, cette année de la bénédiction, cette année où les chaînes tombe, hein, et bénissons le Seigneur pour cela, je suis libre. Un jour, j'ai eu un témoignage d'une femme qui m'avait, il y a quelques années, et elle m'a raconté sa vie. Elle avait été à l'Institut Paoli Calmette, et elle avait eu un cancer des seins, et puis elle avait une grosse tumeur au sein. Et elle est passée par la chimiothérapie, elle est passée par la radiothérapie. Il n'y avait pas d'amélioration notable. Et les médecins essayaient de comprendre bien ce qu'ils allaient pouvoir faire par la suite, hein, au niveau du traitement. Et cette femme, elle m'a raconté qu'elle était venue à l'église pendant cette période. Et c'était un dimanche, j'ai prié pour elle. Elle était là. Et ensuite, elle est retournée à l'hôpital, le lundi ou le mardi. Et puis, on lui a fait passer d'autres tests. Et le médecin était très perplexe. Il était là, et bien, il a regardé. Et puis, il ne sait pas pourquoi, mais la tumeur, elle a commencé à rétrécir, à devenir... Eh bien, elle avait perdu la moitié de sa taille, hein, tellement qu'elle était... Le médecin ne comprenait pas eh bien, pourquoi ça s'était passé comme ça. Il y a même demandé, mais qu'est-ce que... Vous avez fait quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la femme, elle a répondu, la seule chose que j'ai faite de différent, eh bien, c'est d'aller voir un pasteur pour qu'il prie pour moi. Et le médecin lui a dit, eh bien, dites à ce pasteur de continuer à prier pour vous parce qu'à ce rythme, la tumeur va complètement disparaître. Alléluia. Hein, et c'est ça. Elle a eu sa septième année. Elle a eu cette année eh bien, de délivrance. Cette année où elle a vu la main de Dieu dans sa vie, où elle a vu eh bien, qu'elle n'était plus captive parce qu'elle s'était habituée. Parce qu'au travers eh bien, d'une chimiothérapie, vous savez, dans la tête, le moral, ça ne va pas. On baisse les bras. On se prépare pratiquement à la mort. Hein, on voit bien que les médecins n'ont pas la possibilité d'assurer eh bien, la victoire. Et cette femme, eh bien, elle s'était préparée à cela. Et Dieu eh bien, a accompli le miracle dans sa vie. Et Dieu lui a montré eh bien, qu'il y avait une année de délivrance. Une année où elle pouvait vivre, retrouver sa vie, sa liberté, où elle pouvait re-rentrer eh bien, à nouveau dans sa destinée. Et c'est quelque chose, et si vous avez dans votre tête eh bien, des pensées qui vous montrent un domaine où vous êtes malheureux et vous dites c'est permanent, eh bien, regardez à cela et proclamez la parole de Dieu. Que ça soit eh bien, la santé, que ça soit des problèmes financiers, que ça soit eh bien, des problèmes juridiques, que ça soit des problèmes professionnels, que ça soit des problèmes sentimentaux, eh bien, soyez prêts à rentrer dans votre septième année. Alléluia. Soyez prêts cette année eh bien, de délivrance, cette année où Dieu nous libère en un jour. En un jour, eh bien, tu es délivré de tout. De toutes tes dettes, de tous tes problèmes, de tous tes tracas, de tout ce qui t'empêche. Et moi, j'aimerais ce matin que vous amenez, qu'on puisse se donner la main les uns les autres, et puis qu'on puisse se mettre ensemble et qu'on se mette à rêver. Et qu'on se mette à penser que les choses vont changer. Et qu'on se mette à penser qu'ensemble, eh bien, que nous avons une destinée, nous avons une vie, nous avons un plan que Dieu nous a donné et Dieu veut notre bonheur et nous voulons y rentrer, nous voulons le vivre. Nous sommes les acteurs de cette destinée. Nous ne sommes pas des téléspectateurs assis eh bien, sur des chaises qui regardons notre vie et qui avons le sentiment que nous ne pouvons rien faire parce que nous sommes attachés, parce que nous sommes liés, bloqués, hein, et nous voyons le cours de notre vie, les années après les années passées, avec ce sentiment eh bien, de dire c'est permanent, voilà ma vie, elle va rester tout le temps comme ça, elle ne changera pas. Hein. Non, Dieu te dit qu'il n'y a rien de permanent et que Dieu va changer et que Dieu va te remettre sur la route et Dieu va te remettre. Tu as été peut-être, eh bien, comme Bartimée, à un moment donné, hors du chemin, mais Dieu va te prendre et va te remettre sur le chemin afin que tu rentres dans cette destinée qu'il a prévue pour toi, afin que tu sois heureux. J'aimerais vous raconter l'histoire aussi d'une personne que vous connaissez, c'est celle d'une sœur, c'était la sœur de M. Samin, c'est Solange de Descaires. Et vous savez, elle habitait dans une petite copropriété. Et elle avait une toute petite retraite. Et je me souviens, c'était pas facile, hein, mais elle arrivait à s'en sortir. Et puis, mais elle priait toujours parce qu'elle disait, Seigneur, eh bien, je veux que tu me bénisses parce que je voudrais, eh bien, faire davantage pour mon église, parce que je voudrais, eh bien, avoir une vie plus honorable et plus confortable. Et elle ne cessait de prier pour que Dieu amène la prospérité dans sa vie. Et puis, à un moment donné, il y a eu bien la mort de son mari, de son premier mari, et je dirais que à ce moment-là, il a fallu, ça a été un événement, mais sa retraite a doublé. Hein. Je me souviens qu'un jour elle est venue me voir, elle me dit mais Bernard, tu sais qu'est-ce qui se passe? J'avais une retraite toute petite. Et puis maintenant, eh bien, Dieu m'a béni parce que eh bien, j'ai une bonne retraite. Et puis, vous savez qu'est-ce qui s'est produit, hein, c'était, elle n'avait pas 20 ans, 30 ans, hein, elle était déjà mûre. Dans cette petite copropriété, elle habitait, elle avait refait cette maison à son goût. Et puis, le syndic est venenu la voir et ils lui ont dit, ben, voilà, on va vendre des appartements qui sont en location. Et si vous voulez, eh bien, on vous permet d'acheter votre propre maison. Et avec un montant dérisoire, mais vraiment dérisoire, elle est devenue propriétaire de cet appartement. Vous voyez que les prières apportent. Vous voyez que quand on proclame eh bien, la délivrance, eh bien, Dieu apporte la délivrance. Quand on proclame la prospérité, eh bien, Dieu apporte la prospérité. Combien de chrétiens eh bien, sont bloqués, vivent au travers de cet esprit de pauvreté qui les empêche? Combien de gens se disent eh bien, je ne serai jamais propriétaire de mon appartement parce que je n'aurai jamais les moyens? Combien de personnes eh bien, sont limitées dans leurs finances parce que ils pensent que voilà, dans leur vie, ils n'auront plus de promotion, que ça va s'arrêter comme ça, et ils se limitent. Hein, mais la parole de Dieu eh bien, est tout autre. Hein, Dieu a des projets, il nous veut à la tête et non pas à la queue. Il veut que nous soyons dans la prospérité et non pas eh bien, dans la disette, dans le fait de compter le sou, le sou. Vous savez, ça, c'est l'esprit de pauvreté. Je compte le sou, le sou. Quand tu commences à compter, eh bien, tu bloques tes finances. Quand tu, au contraire, tu donnes de l'abondance, Dieu pourvoira toujours à ta vie avec richesse et grande gloire. Parce que notre Dieu est un Dieu qui pourvoit. Et je dirais que cette femme, eh bien, elle a pensé que voilà, Dieu était celui qui pourvoyait. Elle n'a pas pensé à ce qu'elle vivait. Et je crois que la plupart d'entre vous, eh bien, vous auriez dit, c'est, voilà, maintenant j'ai une petite retraite, je dois payer mon loyer, je dois vivre comme ça, et à mon âge, il n'y a rien qui va changer, et c'est jusqu'à la fin de mes jours. Mais vous voyez, elle s'est accrochée à la parole du Seigneur. Elle a proclamé eh bien, cette parole. Elle ne s'est pas laissée épuisée par cette captivité. C'est pareil pour cette femme qui était atteinte eh bien, de maladie, de ce qui a fait cette chimiothérapie. Elle aussi, elle ne s'est pas laissée entraîner, baisser les bras en disant, voilà, maintenant, ça y est, Dieu l'a remis sur place. Elle, on a prié pour elle et le Seigneur a exaucé la prière. Et le Seigneur eh bien, a fait que cette tumeur disparaisse. Nous avons besoin de nous préparer, hein, de nous préparer à notre 7e année, de nous préparer à cette année de délivrance. Nous avons besoin eh bien, de nous préparer afin de sortir eh bien, de toutes ces choses qui nous capturent. Et je dirais que on a un Dieu qui est merveilleux. On le loue, on l'adore. On est là en train de le louer, l'adorer. Mais si j'adore mon Dieu, c'est qu'il m'aime. C'est qu'il veut le meilleur pour moi. C'est qu'il ne veut pas que je sois dans le souci. C'est qu'il s'occupe de moi jour après jour. Qu'il me bénit eh bien, de toutes sortes de bénédictions. Alors je l'aime parce que je sais ce qu'il fait pour moi. Je ne l'aime pas parce que je suis paniqué, parce que je suis là en train de me dire ben, c'est la misère, j'arrive pas à m'en sortir, j'ai un Dieu qui me fait eh bien, qui me fait suer, quoi. Hein. J'ai l'impression qu'il va jamais me bénir, qu'il va jamais me faire rentrer dans sa destinée. J'ai un Dieu qui est là et finalement je viens à l'église, je ne sais pas pourquoi je viens à l'église, parce que eh bien, je rentre pas dans la destinée. Mais ça, ce n'est pas l'attitude du chrétien, ça c'est l'attitude eh bien, de celui qui est capable. Ça, c'est l'attitude de celui qui est dans les chaînes et qui s'est installé dans une situation eh bien, permanente. C'est celui eh bien, qui a dit c'est comme ça et pas autrement. Il a limité Dieu. Mais nous n'avons pas un Dieu qui est limité. Nous avons le Dieu de l'illimité. Le Dieu eh bien, qui nous donne de sortir de nos limites. Et Dieu nous bénit et nous bénit et nous bénit. Tous les jours, ces bénédictions se renouvellent. Hein, c'est ça notre Dieu. Hein, c'est un Dieu. Et je voudrais que vous vous prépariez à cela. Que vous, dans vos cœurs, eh bien, que petit à petit, là, il y ait à nouveau ce souffle-là qui te dit arrête de t'endormir. Arrête d'avoir des mauvaises pensées. Arrête de te conditionner et de te mettre des limites dans ta vie. Arrête de penser que ta vie est une prison. Arrête de penser que dans ton couple, eh bien, il n'y a plus d'amour. Arrête de penser que dans ton travail, tu n'arriveras plus à évoluer. Arrête de penser que tes enfants, ils sont perdus parce qu'ils se droguent ou parce qu'ils sont pris dans des filets. Arrête. Mais proclame la parole de Dieu. Proclame l'année de la délivrance de Dieu. Proclame eh bien, la puissance de Dieu dans ta vie et tu vas voir comment elle va s'accomplir. Hein, vous devez commencer à parler de tout ce que vous désirez. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ce rêve eh bien, où nous sommes ensemble et où nous parlons à cœur et où un me dit, ben moi tu vois, j'aimerais travailler dans l'informatique, j'aimerais telle découverte, j'aimerais faire ceci, je me vois déjà avec mon entreprise. Alléluia. J'aimerais eh bien, que d'autres personnes disent, ben moi je voudrais avoir 5 enfants et je me réjouis de les voir grandir. J'aimerais que chacun puisse parler des rêves et vivre nos rêves et que nous puissions eh bien, exalter ce que Dieu peut faire parce que nous savons Dieu avec nous et Dieu peut faire eh bien, tout ce que tu désires. C'est le désir de Dieu. Hein, c'est pas Dieu ne te met pas dans la captivité, mais Dieu exauce tes prières. Alléluia. Il exauce nos prières. Hein, au lieu de dire « Ah, mon arthrite, ah, mon diabète, ah, mes difficultés financières, ah, mais, tu n'es pas propriétaire du diabète, tu n'es pas propriétaire de l'arthrite, tu n'es pas propriétaire des difficultés financières. » Vous voyez à quel point on rentre Hein, à quel point on s'est fait, on est captif, parce qu'on s'installe dans une situation et finalement, eh bien, au lieu d'avoir une position de rejet, de combat, eh bien, on a capitulé et on parle mon diabète. Hein. C'est comme si c'était notre propriété, comme si que finalement, eh bien, cet esprit, il a pris possession, il est propriétaire de mon corps. Et il a une partie, eh bien, le diabète, il a pris possession, la pauvreté, elle a pris une possession de mon esprit. Et finalement, eh bien, je me sens pauvre, c'est comme ça, j'aurai toujours des difficultés financières. Je serai toujours en train de compter, eh bien, et de voir comment je vais arriver à joindre les deux bouts. Hein, et pour les Juifs, eh bien, c'est important les noms. Hein, c'est important de savoir ce qu'on dit. La parole, le pouvoir de la pensée. Même l'apôtre Paul disait, eh bien, ces légères afflictions sont que pour un moment. Et pourtant, on sait que, eh bien, Paul a passé par des difficultés, mais lui ne s'est jamais installé dans cette situation. Il parlait, eh bien, c'est pour un temps. On fait avec, mais ça ne va pas durer. Et dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, au chapitre 2, verset 22, eh bien, Moïse a un fils, hein, qu'il a mis au monde et qu'il appelait Gershom. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Gershom ? Ça signifie « je suis un étranger dans un pays étranger ». Hein, cela voulait bien dire que, eh bien, il savait qu'il était... À chaque fois qu'il voyait son fils, ça lui rappelait cette chose. Je suis un étranger dans un pays étranger. Je ne suis pas... Je suis que de passage. L'esclavage ne me tient que pendant un temps. Mon peuple, eh bien, sera pendant un temps, mais je ne vais pas m'installer dans cette terre étrangère parce que je sais que Dieu a une terre, cette terre de Canaan, et cette terre de Canaan, elle est pour moi. Et à chaque fois que je franchis, eh bien, des villes, à chaque fois que je franchis des étapes, je sais que je suis encore, que je n'ai pas atteint mon but. Je suis un étranger dans ce lieu-là. Ce n'est pas mon lieu, ce n'est pas mon territoire, ce n'est pas ma bénédiction. Ma bénédiction, elle sera quand j'arriverai à atteindre ma destinée. Elle sera quand je serai dans ma terre de Canaan. C'est ça ma bénédiction. Et moi, je vous invite à rentrer, à chercher votre terre de bénédiction, à chercher votre Canaan. Ne soyez pas, ne vous habituez pas, ne soyez pas, eh bien, dans des situations où vous baissez les bras, mais cherchez votre destinée, rentrez. Et lorsque vous l'avez trouvée, eh bien, chérissez-la. Hein, remerciez le Seigneur pour cela. Et nous ne sommes pas, eh bien, les citoyens du diable, hein, esclaves du diable. Nous ne sommes pas, eh bien, les citoyens du manque d'argent. Nous ne sommes pas les citoyens qui sont captifs de la maladie. Hein, nous sommes les citoyens de Dieu. Nous sommes les citoyens de la bonne santé. Je proclame ma bonne santé sur mon corps et je proclame la bonne santé sur ton corps. Et je dis, eh bien, à la maladie, et je ne dis pas à ta maladie, je dis à cette maladie, qu'elle n'a rien à faire dans ton corps parce qu'elle est sur une terre étrangère, cette maladie. Elle n'a aucun pouvoir sur ton corps. Elle n'a aucun pouvoir. Elle est là pour un temps, mais sache une chose, c'est qu'elle va disparaître. Hein? Parce que ton corps est un lieu saint. Ton corps appartient et tu es la propriété de Dieu. Alléluia. Hein, c'est ça. Dites, je suis béni, je suis en bonne santé, je suis fort, je suis victorieux. Ce sont les paroles que nous devons avoir, nous, les enfants du Seigneur. Je suis fort, je suis victorieux, hein, je suis béni. C'est les paroles, c'est le langage eh bien, d'un enfant de Dieu. C'est pas l'enfant qui est là et qui dit, mais ça va pas, malheureux, regarde. Tu vois, dans l'église, il n'y a pas beaucoup de monde. Où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, nanani, nanana. Qui est ton Dieu ? Qui est comme lui ? Un Dieu fait ce qu'il veut, Dieu agit puissamment. Et on a un Dieu qui peut remplir, et un Dieu à déborder, on a un Dieu qui peut toucher une multitude de personnes, qui peut amener eh bien, une multitude d'âmes dans l'église afin qu'elles soient sauvées. On a un grand Dieu et j'ai de l'espoir en Dieu. Je mets mon espérance dans le Seigneur. Où mets-tu ton espérance ? Hein, l'espérance. Vous savez, l'espérance en Dieu, c'est la démonstration de la gloire de Dieu. Alléluia. Hein, c'est quelque chose de formidable. Hein, notre adresse. Il y a un passage dans l'Écriture aussi qui nous parle d'un roi, qui est le roi Ézéchias. Et on sait que ce roi était très malade. Et le prophète Ésaïe est venu lui rendre visite au palais. Et puis il lui dit, à cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint le trouver et lui annonça, « Voici ce que dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. » Imaginez la tête du roi. Hein, c'est pas n'importe qui. C'est le prophète, serviteur de Dieu, qui va voir Ézéchias et qui lui fait, « Ézéchias, ton heure est venue. Maintenant, prépare-toi à mourir. Tu es malade. Tu as fini ton temps. » Il y a de quoi te cisailler. Hein. Il y a de quoi te mettre le moral à zéro. Hein. Il y a de quoi, tu es là et tu baisses les bras et tu dis, c'est que ça y est, hein, maintenant, c'est irrémédiable, hein, c'est fini. Bien, vous savez, qu'est-ce qu'a fait Ézéchias ? Ézéchias, il n'a pas accepté cette pensée, même si ça venait du prophète, même si ça venait d'un homme de Dieu. Il n'a pas accepté ça. Il a commencé, vous savez à quoi faire, il s'est mis en prière. Il a dit, Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité avec un cœur intègre et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura de tout son cœur abondamment. Rappelle-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. Rappelle-toi des bonnes choses. À quoi ça te servirait que je meure ? Hein ? À quoi ? Et s'est mis à aller à contresens par rapport à une parole d'un prophète. Hein, on connaît la puissance. On t'a honoré, ma famille t'a honoré. J'ai fait des choses qui sont merveilleuses et je les fais de tout mon cœur. Et Ésaïe était sorti, donc le prophète, mais il n'avait pas encore atteint la cour au milieu que la parole de l'Éternel lui fait adresser. « Retourne, annonce à Ézéchias, le chef de mon peuple. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir et dès après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à ta vie. Je te délivrerai de même que cette ville du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. » Alléluia. Vous voyez, Dieu, ça a été immédiat. Il a prié et qu'est-ce qu'il a fait, Dieu ? Il est revenu sur sa décision. Il a rallongé la vie de 15 ans. Vous voyez, ne vous installez pas dans une position. Ne baissez pas les bras. Même si ça paraît quelque chose que vous ne pourrez même pas atteindre, voir, visionner, mais ne croyez. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et je vais vous dire, c'est quelque chose de fondamental, parce que quand le prophète est venu voir Ézéchias, il s'est mis à louer le Seigneur, il s'est mis à l'adorer, à le remercier. Mais il ne s'est pas guéri. Hein. Il ne s'est pas guéri. Vous savez, quand vous êtes guéri, que vous sentez la délivrance, vous sautez, hein, vous dites « Alléluia, merci Seigneur, tu m'as guéri ». C'est facile quand vous pensez que quand Dieu vous guérit avant. Il n'était pas guéri. Il avait mal. Il sentait la douleur dans son corps. Et malgré cela, il ne marchait pas par la vue, mais par la foi. Malgré ça, il s'est mis à louer le Seigneur. Merci Seigneur, je sais que tu me donnes une longue vie, je sais que tu m'as rallongé en existence, je sais que je vais pouvoir te servir et au contraire, je vais te servir deux fois mieux. Je vais faire encore plus que je faisais parce que tu m'as délivré, parce que tu m'as donné la vie et que tu me donnes de continuer. Voilà une clé formidable, un enseignement formidable. Ne marche pas par la vue, ne regarde pas tes difficultés, ne regarde pas à la situation. Quand tu proclames et que tu remercies Dieu, peut-être que tu as mal au dos ce matin. Peut-être que tu as un abcès dans ton corps. Peut-être que tu penses à lundi qu'il va falloir te résigner à aller au travail et que ça sera comme ça. Mais proclame la délivrance, proclame eh bien, la grandeur de Dieu. Dis-lui, Seigneur, merci parce que eh bien, demain sera un jour merveilleux, un jour eh bien, où tu vas me renouveler, où tu vas me donner de sortir eh bien, de cet esclavage, de ces limitations. Eh bien, tu vas me donner de rencontrer de nouvelles opportunités, tu vas me donner de voir autre chose, tu vas me guérir et je te remercie. Au moment où vous le dites, vous serez peut-être comme Ézéchias, avec la douleur au dos. Hein, dans son corps, mais vous remerciez le Seigneur. Hein, et Dieu, dans son amour, il dit, tu vois, avant même que j'agisse, il me remercie. Avant même que j'agisse, il lève les mains vers moi et me dit, je te remercie de tous tes bienfaits, etc. Alors, Dieu, vous savez, est bon. Parce que vous avez agi comme ça, parce que vous avez cru en lui, eh bien, Dieu se manifeste sa puissance et vous apporte la solution à votre difficulté. Hein? Parce que vous avez agi avec la foi. Eh bien, Dieu, lui, il agit parce qu'il aime votre langage. Il aime la façon dont vous lui avez parlé. Parce qu'il voit eh bien, que vous vous êtes levé, que vous avez regardé à lui et que vous lui avez dit, Seigneur, eh bien, je t'invoque et tu me réponds. C'est ça la parole. Hein? La parole de foi. Hein? Vous devez croire. Et puis après, vous verrez. Vous devez croire en premier. Et après, vous allez voir des grandes choses. Et c'est ça le problème. C'est que souvent, eh bien, tu ne crois pas. Souvent, tu t'es tellement installé dans une situation pensant que cette situation elle est définitive. Eh bien, que tu arrives, que tu as du mal à croire, que tu as du mal à te voir libéré, que tu as du mal à trouver la solution, que tu as du mal. Mais vous savez, le problème, c'est que la solution, eh bien, elle ne nous appartient pas. C'est pas nous, on peut prévoir toutes les stratégies, mais Dieu, il a sa solution. Et sa solution, elle est différente de nous. Parce que Dieu, il fait des choses que nul homme ne peut faire. Parce que Dieu est le Dieu de l'impossibilité. Parce que Dieu est le Dieu des circonstances. Parce que Dieu est le Dieu des nouvelles opportunités. Nous, on croit que les choses sont figées et ne bougeront plus, stagnent. Mais Dieu, lui, sait toutes choses. Il connaît les bonnes personnes. Il connaît les situations. Et souvent, il nous surprend. Il n'agit pas comme nous, on aurait pensé qu'il agisse. Nous, on fait des plans, hein, on fait des plans sur la comète, mais Dieu, il a une autre stratégie. Il a la stratégie, eh bien, sa stratégie. Et cette stratégie, elle nous surprend toujours. Ce n'est pas la stratégie humaine. Ce n'est pas nous qui donnons des ordres à Dieu. Ce n'est pas nous qui lui disons « agis comme ça hein. ». C'est lui qui agit comme il le veut. C'est lui qui fait les choses. Parce que lui, il veut eh bien, que nous rentrions dans notre destinée. Parce que lui, seul, sait ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Il sait, il sait. Hein? Il sait ces choses-là. Hein? Et je voudrais que vous sortiez, que vous puissiez voir, au lieu de vous plaindre, au lieu d'être là à baisser la tête, au lieu de ne pas avoir le moral comme beaucoup de gens, parce que vous savez, quand on regarde à la France, on a l'impression de voir des gens qui sont démoralisés, des gens qui n'ont plus d'ambition, qui n'ont plus de désir de vivre, qui ont peur de tout, hein, qui sont là en train de vivre des cauchemars. Leur vie est un cauchemar. Mais j'aimerais bien vous dire que ça, c'est la parole du malin, du diable. Hein, c'est cet emprisonnement dans lequel vous êtes rentré. Mais j'aimerais vous dire que Dieu vous fait sortir des prisons. Dieu vous fait sortir de la captivité. Dieu vous rend libre. Il vous a affranchi. Vous êtes libre en Jésus-Christ parce que Jésus a payé ta dette. Jésus a payé le prix par son sacrifice. Hein, Jésus, eh bien, t'a donné de sortir victorieux de ces situations et pas les mains vides. Pas les mains vides quand les Juifs sont sortis de l'esclavage eh bien, d'Égypte. Ils avaient les coffres-forts pleins des trésors de l'Égypte. Hein. Ils avaient l'or, ils avaient l'argent, ils avaient le bétail, ils avaient toutes les choses, toutes ces richesses, eh bien, parce que Dieu aime son peuple, parce que Dieu t'aime, parce que Dieu a des projets pour toi, parce qu'il a mis son espérance en toi. Alléluia. Hein. Et j'aimerais que vous regardiez à cela. Il y a aussi un homme qui est surprenant, et c'est dans le livre des Actes, un homme qu'on aime bien parce que c'est Paul, un Saul de Tarse, hein, et qui a été aveuglé par une grande lumière sur le chemin de Damas, et Dieu a parlé à Ananias. Alors, chapitre 9, verset 10, « Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias, et le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur !» Le Seigneur lui dit, alors, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas. Demande un dénommé Saul de Tarse. En effet, il prie. Et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, eh oh, Seigneur, ça va ou ça va pas? J'ai appris de cet homme, de Saul, j'ai appris qu'il faisait beaucoup de mal, que cet homme a fait à des saints à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs, des prêtres, pour arrêter tout ce qui font appel à toi. Mais le Seigneur, vous voyez, c'est surprenant. Surprenant, Saul. Il va voir l'Éternel passe à Ananias. C'est la dernière personne que je vais prier. Est-ce que tu vas prier pour un ennemi de Dieu qui a contribué à pourchasser un homme qui avait tous les pouvoirs du Sanhédrin, donc un homme, eh bien, c'est cet homme-là que Dieu a choisi. Et il dit à Ananias, non, va le voir. Tu sais pourquoi? Eh bien parce que il lui dit comme ça au verset 15, mais le Seigneur lui dit, va. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Et je crois que ça, c'est aussi quelque chose de formidable. Si vous êtes toujours en train de dire à Dieu que vous avez entendu ceci, qui n'est pas bien, que c'est pas... Vous savez, souvent on parle, ah oui Seigneur, cette personne-là, tu veux que je discute ou que j'aille manger au restaurant avec elle? Mais enfin, tu as vu cette personne? Moi, j'ai entendu tellement de mal sur cette personne. Cette personne, elle a fait ci, elle a fait là. Tu sais, tu vas aller dans telle église. Mais tu t'imagines, un pasteur, il a vécu ça, il a fait ça, il a été là, il a été condamné, il a ceci. Ah, ne va pas dans cette église. Tu sais, faut pas aller dans cette église. Tu risques de... C'est la condamnation pour toi. Saul de Tarse, que Dieu a choisi eh bien, pour annoncer l'évangile à toutes les... aux extrémités de la terre, eh bien, c'était la dernière personne que les gens ils auraient été délivrés. N'importe qui. Comment ce travail-là? Mais tu t'imagines avec ces gens qui sont là et qui sont là en train de magouiller, etc. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? J'ai pas envie de ceci et j'ai pas envie de cela et je voudrais pas faire comme ça et je voudrais pas faire ceci et je voudrais pas faire cela. Et j'ai entendu. Oh, qu'est-ce que mes oreilles ont entendu? Je crois que si vous aviez des oreilles qui ont entendu, elles toucheraient le sol. Vous marcheriez avec deux pendentifs qui toucheraient le sol. Tellement vous avez entendu et entendu du mal et du mal et du mal et du mal. Et de Pierre et de Paul et de Jacques. Combien vous avez entendu du mal d'un tel, de tel frère, de telle sœur, de celui-là, que du mal. On entend tellement de mal que des fois on se dit, mais attends, c'est l'église de Jésus-Christ ou quoi? J'ai entendu. Mais Dieu, il ne regarde pas comme toi tu regardes. Dieu, il n'entend pas, il voit au cœur. Dieu, il a choisi cet homme. Même si cet homme, il a fait... Eh bien, il a combattu, il a été peut-être à l'origine eh bien, de la lapidation d'Étienne. Il n'en demeure pas moins que Dieu avait mis son regard sur lui et que c'était lui et pas un autre. Et Dieu a fait eh bien, de Paul son apôtre et il a accompli eh bien, cette tâche merveilleuse d'annoncer eh bien, la parole au monde, d'annoncer la parole à toutes. Et ça, c'est une clé. Arrêtez de vivre avec ce que vous avez entendu. Parce que bien souvent, vous ne rentrez pas dans le plan de Dieu parce que vous écoutez vos oreilles, mais vous n'écoutez plus votre cœur. Vous écoutez vos pensées, ce qu'on vous a dit, mais vous n'écoutez plus eh bien, ce que Dieu vous dit. Et je crois qu'il faut faire attention de ne pas vivre avec les pensées, toujours avec ce qu'on entend. Mais Dieu nous a libérés de toutes ces choses qui sont fausses, parce que Dieu nous aime et parce que lui, quand il parle de nous, il dit que le meilleur de nous. Lui, il nous défend, comme nous sommes la prunelle de ses yeux. Pour lui, chaque enfant de Dieu, eh bien, c'est une merveille et il nous aime d'un amour inexplicable, inexprimable. Et il est toujours à nous défendre. Il est toujours à prendre notre défense. Il est toujours là à nous dire « Non, tu es le meilleur et non, tu n'es pas le dernier. Tu es celui eh bien, en qui j'ai mis toute mon espérance. Tu es celui eh bien, qui va agir puissamment. Hein, » et ça, c'est formidable. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Hein, alors, maintenant, vous avez les raisons, eh bien, ces raisons de réussir. Ne laissez pas ces voies. Vous avez eh bien, toutes ces choses qui sont là pour vous donner de rentrer dans votre liberté. Ne soyez pas. Vous savez, moi, pendant des temps, j'étais captif aussi par rapport aux gens, par rapport à ce que j'entendais, par rapport au bruit qu'on me disait de personnes qui parlaient de moi et qui disaient, je ne sais pas. Et puis, j'ai entendu plein de choses qu'on disait sur des journalistes, sur des gens. Et finalement, je me suis dit, mais tu te rends compte, ces gens-là, ils font quelque chose et on les salit toujours. Et on les traite de ceci, on les traite de cela. Et on leur met plein de mensonges. Et on leur dit même ce qu'ils n'ont pas dit, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, vous savez, on vous met tout ça. Mais je me suis dit, eh bien, vous savez, aujourd'hui, c'est l'année de la délivrance. C'est l'année, eh bien, où je suis libre et que toutes ces paroles, eh bien, que j'ai peut-être entendues, je les ai mises à la poubelle. Hein, et je me suis dit, eh bien, Dieu m'a libéré, Dieu m'a affranchi et c'est lui qui me donne de rentrer dans la réussite. Je ne vais pas me laisser lier, je ne vais pas me laisser condamner, je ne vais pas, parce qu'il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Hein, c'est la parole du Seigneur que nous proclamons, c'est elle que nous croyons. Et c'est quelque chose de formidable, parce que quand vous allez dans la parole, et dans le prophète Ésaïe, eh bien, au chapitre 61, il est dit, et c'est ce que nous devons rechercher, « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux présidents et aux prisonniers la délivrance. Voilà, eh bien, ma destinée, voilà ce que Dieu a prévu pour moi. Son onction est sur moi afin que j'accomplisse les plans de Dieu et que je n'écoute pas les plans du monde, que je n'écoute pas eh bien, toutes ces chaînes, tout cet esclavage, tout ce que les gens entendent. Mais moi, je veux entendre la voix du Seigneur. Je veux vivre la voix du Seigneur et je ne veux pas entendre ce que les gens disent. Je ne veux pas entendre ces choses-là. Ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, les gens ne viennent pas me voir pour me le dire. Ils savent que ça ne m'intéresse pas. Même s'ils entendent, ils ne viennent pas me voir. Parce qu'ils savent que ce n'est pas ça que je veux. Je veux entendre, eh bien, la parole du Seigneur qui me dit, il faut proclamer, proclame l'année de grâce de l'Éternel, proclame, eh bien, l'année, eh bien, où le Seigneur, le jour de la vengeance de notre Dieu, proclame, eh bien, parce que Jésus est venu pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Il est venu, eh bien, pour mettre et pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange, au lieu d'un esprit abattu, on les appellera alors térébinthe de la justice, plantation de l'Éternel. Et vous êtes la plantation de l'Éternel, alléluia. Dites, je suis la plantation de Dieu. Alléluia, hein. Voilà ce que Dieu fait. Nous avons un Dieu merveilleux. Et c'est pour ça que nous le louons tous les dimanches. Nous l'adorons parce que nous savons que nous avons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui nous libère eh bien, de toutes ces chaînes, de tous ces emprisonnements, de toutes ces limitations dans lesquelles eh bien, nous nous installons et nous les installons comme étant une norme dans notre vie. Rien n'est permanent. Hein. Dieu est le Dieu de la transformation. Dieu est le Dieu du changement. Dieu te donne de rentrer dans sa destinée. Alléluia. Tu proclames la destinée du Seigneur. Et on peut eh bien, le remercier. Mettez la main sur votre cœur et dites-lui, Seigneur, je veux que ce matin, eh bien, ça soit ma 7e année. Que tu croises le chemin de ma vie et que tu me donnes eh bien, de rentrer dans mon année de bénédiction. dans mon année de transformation. Je ne veux plus être limité par les choses de la vie comme étant une norme. Toi, tu connais toutes choses. Toi, eh bien, tu connais les moyens de me délivrer de ces normes de la servitude. Seigneur, eh bien, attire les bonnes personnes, ouvre les écluses des cieux et fais descendre eh bien, tous les trésors du ciel afin de me délivrer de toute dette, de toute pression, de toute sensation. Seigneur, eh bien, ouvre tes écluses des cieux afin de nous donner de rentrer dans un avenir, dans une espérance, dans des jours eh bien, où nous nous réjouirons tous ensemble, où les hommes et les femmes de l'Église lèveront les mains et ils seront en multitude, parce que tous ces hommes eh bien, viendront et te loueront et te célébreront. Seigneur, eh bien, tu vois cette ville, nous te la portons et te demandons eh bien, de toucher toutes les âmes, Seigneur, toutes ces âmes qui sont dans la captivité. Seigneur, c'est ton peuple, tu les connais, tu les as appelés par leur nom, tu les connaissais même avant qu'ils étaient dans le sein de leur mère. Eh bien, Seigneur, tu les appelles aujourd'hui, appelle toutes ces âmes de cette ville à venir te louer, te célébrer, à venir être délivrées de l'esclavage, de la captivité, de cette maison de la servitude. Seigneur, appelle ces âmes, libère-les et donne-leur de rentrer dans la destinée du Dieu vivant et vrai. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. On va aller dans la Sainte Communion pour remercier le Seigneur et pour regarder, penser. Mettez devant vos cœurs, devant vos yeux, tous ces endroits eh bien, où vous êtes captifs, où vous êtes limités. Et invoquez-le, la parole. Proclamez la parole de Dieu sur cette captivité. Ne vous laissez pas, ne rentrez pas dans les normes. Ne pensez pas que cette situation, elle est pour toujours. Elle n'est que pour un temps. Parce que Dieu veut que vous rentrez dans la destinée qu'il a prévue pour chacun de vous. Alors, ayez de l'espérance, ayez de la foi. Ne marchez pas par la vue, ne laissez pas votre esprit, eh bien, votre intelligence vous diriger, mais laissez Dieu agir. Hein, dites-lui, Seigneur, moi je veux que tu agisses dans ma vie. Je veux que ce soit toi qui prennes les rênes, le contrôle, et que ce soit toi qui me dirige. Seigneur, je proclame eh bien, cette année de délivrance sur ma vie, sur ma femme, sur mes enfants, sur ma famille, sur toutes les personnes, sur tous les membres de l'Église. Je proclame cette année de délivrance et que l'onction du Seigneur soit sur chacun de vous, afin que vous puissiez voir la grâce et les bontés de Dieu eh bien, se renouveler chaque matin. Alléluia. Dieu est un Dieu surprenant. Hein. Alors, osez. Hein, comme Paul, eh bien, Dieu a un chemin pour vous. Alléluia.